à l'idée que les Juifs, comment cette population misérable, qui n'était même pas comparée à des ânes, à des bourricots, comme il disait, je me rappelle, moi, encore enfant, lorsqu'un arabe voulait insulter son bourricot, il l'appelait juif. Et puis, comment ceux-là vont être souverains sur la terre de la promesse, Abraham, Ismaël, tout ça. C'est une réaction de blasphème. On devient fou de rage, c'est clair. Comme par exemple, petite parenthèse, l'idée que le Saint-Sépulcre des chrétiens soit dans une municipalité juive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2000 ans après, pour la chrétienté. Tant que c'était aux mains des Arabes, ils s'en fichaient, plus ou moins. Juifs, ça, c'est pas possible. Alors, vite, vite, internationaliser Jérusalem. Et quand c'était jordanien, le Saint-Sépulcre. Ah bon, c'est autre chose. Vous comprenez les Juifs, on ne peut pas supporter. Alors, ça, c'est l'islam. Alors, corollairement, vous avez tout le monde chrétien qui, pour des raisons théologiques, et puis pour des intérêts politiques, en particulier les pétrodollars, comme on dit aujourd'hui, tout le monde chrétien, c'est un ensemble considérable qui est allié, objectif du monde musulman. Ça fait déjà les deux tiers de l'humanité. Okay. Et puis, vous avez tout le monde socialiste qui, pour ses propres intérêts idéologiques, politiques et économiques, est aussi du côté des Allemands. Donc, les Chinois y compris. Et les Japonais aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez au moment de la guerre de Kippour, que les Arabes ont obligé, jusqu'aux Japonais, les Hollandais y compris, à prendre des positions anti-israéliennes, sinon fermer le pétrole. Quand cette histoire du pétrole cessera, ça se redistribuera autrement. Mais aujourd'hui, le monde entier est pris à la gorge par l'Arabie saoudite qui tient les clés du pétrole. Alors ce qui fait que, objectivement, heureusement qu'on ne pense pas à ça tous les matins en se réveillant, parce qu'on ne pouvait pas dormir la nuit d'avant, objectivement, Israël est entouré d'une coalition d'hostilité pratiquement universelle. On n'a qu'à faire l'addition, tout l'islam, toute la chrétienté, tout le monde socialiste, et qu'est-ce qui reste? Personne. Alors, le monde entier, comme dit la Bible, on peut supporter. Mais quand il y a des juifs en plus, c'est trop. Vous compris, ils ont du problème. C'est vrai?
Même pas les États-Unis,
même pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la relation, je ne peux pas en parler en trois phrases, on n'a pas le droit, mais la relation politique de solidarité entre l'Amérique et Israël est ambiguë, ambivalente et catastrophique. Je ne sais pas si vous percevez. Peut-être que ce sont nos pires ennemis. Peut-être que c'est là-bas que Rome est incarné. Surtout au temps de Carter, c'était absolument évident. Bon, alors vous voyez quel est l'état des choses. Alors, je vais vous lire ce texte quand même. C'est annoncé que c'est quand... Pourquoi vous riez? C'est quand les Juifs... Oui, je vais vous la donner. Quand le conflit, quand les Juifs décident de revenir sur leur terre, le refus vient d'Ismaël. Voilà, c'est bien centré. Voilà, alors vous allez prendre le verset des bénédictions à Ismaël et je vais vous étudier ça très, très rapidement. Une minute. C'est un peu avant. Une minute que je trouve ça, à la naissance d'Ismaël. Chapitre 16, maintenant je vais vous dire. Attends, je trouve ces versets et puis une minute. Voilà, c'est le verset 12 du chapitre 16. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Ah, ben tu vois, j'aurais dû me le rappeler avant. Rappelle-moi pour demain. Okay. Bon, alors c'est dans Bereshit, chapitre 16, Tetzaïn, verset 12. « Voilà, ça c'est l'annonce de la bénédiction d'Ishmaël à Agar. Je prends à partir du verset 11. Vayomer la Malach Hashem, mais l'ange de Dieu lui a dit, Inach Hara, voici tu seras enceinte, Veyolat Teben, et tu enfanteras un fils, Vekarat Hashem Ishmael, Vekarat Hashem Ishmael, tu nommeras son nom Ishmael, qui Shama Hashem Elonir, car Dieu a écouté ta misère. Et lui, il est Pere Adam, et il sera un homme sauvage. Pere, ça veut dire, comme on dit, un anon sauvage non domestiqué. Okay. Pere. Comment on dit ça en français? Comment on le traduit?
Sauvage.
Yado bakol, sa main sera sur tout, veyad kol bo, et la main de tous sera sur lui. Voilà le texte apparemment sibyllin de la bénédiction à Ishmaël, je vais mettre ça au tableau. Yado bakol. Vous savez ce que c'est, un colbo? C'est pas une librairie à la rue. Colbo, c'est là où un dépotoir, là où on met tout, colbo, tout est dedans. Bon, mais ça c'est un sens très, très actuel, contemporain. Yado bakol, ça veut dire il portera la main sur tout. Et deuxième étape, yad colbo, mais la main de tous sera sur lui. Voilà, première étape, c'est qu'Ishmaël a un programme de conquérir le monde entier. C'est la guerre sainte. Bon, vous savez comment Ishmaël, l'islam, dès son expansion, a eu une expansion pratiquement de visée universelle. Et ils se sont arrêtés à Poitiers, mais ils ont recommencé dans notre temps. Alors la deuxième étape, c'est Yad Kol Bo, la main de tous sera sur lui. C'est clair ?
Il programme aussi la chrétienté ?
Oui, mais de façon quand même différente. Oui, tu as raison, mais enfin, ici, c'est, je veux dire, la chrétienté a pris la Libye de la conversion spirituelle des peuples colonisés, tandis que dans l'islam, on se passe de cette alibi. Il y a un commandement de la guerre sainte, ça veut dire d'imposer par la force l'islamisation. C'est-à-dire, il y a un principe dans l'islam qu'il faut très clairement avoir présent à l'esprit. Le monde, pour l'islam, se divise en deux parties. Je vais vous le dire en arabe. Dar l'islam, ça veut dire la maison où on a proclamé la profession de foi islamique, ou Dar al-Harb. Dar al-Harb, ça veut dire la maison de la destruction. C'est-à-dire, c'est ou bien l'islam, ou bien la ruine. Voilà le programme de la guerre sainte. Et alors, ils ont un principe, c'est que là où une fois la prière musulmane a été dite, c'est terre d'islam. Vous comprenez ça? Et par conséquent, ça veut dire qu'on ne pourra jamais obtenir d'eux, à vue humaine, qu'ils renoncent à l'idée que ce qu'ils appellent la Palestine est une terre arabe, puisqu'on a fait la prière musulmane dessus, tout simplement. C'est clair ? Vous avez compris ce que je veux dire très exactement ? C'est que lorsque on entend les Arabes parler de paix, alors on ne sait pas très bien qui parle. Un Arabe assimilé, je veux dire démusulmanisé, ou un musulman ? Et alors, dès que les musulmans entendent un diplomate arabe faire semblant de parler de paix, ils le... Vous avez remarqué ça? Bon, c'est schématique, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Top. Alors, je reviens au problème. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette expansion a repris. Vous seriez effaré si vous étiez au courant de la quantité d'expansion du monde arabe en Occident, où ils sont pratiquement en train d'acheter l'Occident tout entier, jusqu'à ce que les Occidentaux s'en rendent compte, et c'est toujours trop tard. Bon, si vous avez lu Nostradamus, vous savez la suite. Alors, pour revenir à notre problème, de quoi on parlait juste avant. Ah oui, voilà les quatre mots de la bénédiction d'Ishmaël. Yado, bakol, veyadkol, bo. Alors, je vais vous expliquer cela à la manière du Zohar, simplement en mettant en évidence le fait que La bénédiction des trois patriarches, c'est Abraham, Bakol. Abraham a été béni en tout. Yitzhak, Mikol, et Yaakov, Kol. Vous allez prendre ça comme postulat. Vous vous rappelez, dans le Birkat Hamazon du rite Ashkenaz, il y a Bakol, Mikol, Kol, Ken, c'est... Non, dans le rite Sfarad aussi. Et Abraham, Yitzhak, Yaakov, Bakol, Mikol, Kol. Les Yamim Noraim, on le prononce autrement, on dit Abraham, Bakol, Yitzhak, Mikol, Yaakov, Kol. C'est les trois niveaux. Ça, vous suivrez la sélection de l'alliance à travers Abraham, Isaac et Jacob. Alors c'est en Abraham, mais pas tout Abraham, en Isaac, mais pas tout Isaac, mais tout Jacob. Bakol, Mikol, Kol. Vous suivez? Alors reprenons maintenant le verset concernant Ishmaël.
Quelle est la différence entre Bakol et Mikol?
Bakol, ça veut dire dans le tout. Et tandis que Mikol, une partie du tout. Et Kol, tout. Hein? Du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, reprenons maintenant notre verset. Vous me direz si je vais trop vite, mais je ne pense pas. La prétention d'Ishmaël s'accroche en Abraham. Yado Bakol. Je vous montrerai ça sous forme d'image. Sa main s'accroche à Abraham. Yado Bakol. C'est clair? Veyad Kol, mais la main de Jacob sera sur lui. Ça va? Yad Kol Bo. Vous avez entendu?
Non.
Non, pardon. Comment tu l'entends? En français ou en hébreu? En français? En hébreu. Bon, Yado Bakol. Bakol, c'est l'indice de la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire, la prétention d'Ishmaël sur cette terre vient de ce qu'il se réclame d'Abraham. C'est clair? Bon. Mais la fin du verset, c'est Yad Kol Bo. Mais la main de Kol, qui est Jacob, sera sur lui, Ishmaël. C'est clair? Bon. Alors regardez bien ce qui s'est passé. Il a fallu attendre le sionisme politique qui est venu des Ashkenazim pour que Isaac puisse avoir sa terre face à Ishmaël. C'est donc Jacob qui est venu au secours d'Isaac face à Ishmaël. C'est clair? Tant que Isaac et Ishmaël étaient en présence, Ishmaël a toujours empêché Isaac d'avoir sa terre. Dès que Jacob est intervenu, la terre est rendue à Isaac. Vous voyez, c'est clair? Vous avez compris comment Jacob est venu au secours d'Isaac dans son problème avec Ishmaël. Ça va? Top. Alors, l'autre problème, je vais vous donner la référence. Je vais prendre. Ça, c'est donc. C'est-à-dire le problème où Isaac vient au secours de Jacob dans son problème contre Ésaü. Alors, ça, vous l'avez dans la parasha de Toldot. Non, pas de Toldot. De Toldot. Vous allez prendre le verset dans le chapitre 27 ou 28, je vais vous dire. Voilà. Chapitre 27, verset 41. Chapitre 27, verset 41. C'est ce qu'on a vu maintenant. Mais maintenant, on va voir l'inverse. Alors, prenez votre texte. Chapitre 27, verset 41. Tu as le numéro de la page? Donne-la pour les autres. Plus fort. Ça y est? Donc, alors, je vous lis le verset. Vaïstom Esav et Yaakov et Esaü haï Jacob. Alors, Beracha Asher Beracho Abi, à cause de la bénédiction que son père lui avait bénie. Donc, apparemment, ça veut dire que Esaü a haï Jacob à cause de la bénédiction que Jacob a reçue de son père. Mais on verra que le texte est beaucoup plus précis, c'est l'inverse. C'est que Esaü a haï Jacob à cause de la bénédiction que Esaü a reçue de Isaac, son père, pas Jacob. Et quelle bénédiction lui a donnée? Le verset précédent, tu vivras de ton épée. Voilà la bénédiction d'Ésaü. Tu vivras de ton épée. Ça vous dit quelque chose? La Pax Romana. Donc, alors, ça, je vous l'expliquerai quand on arrivera à ce moment-là. comment la haine de frustration d'Ésaü d'avoir comme bénédiction le fait de vivre comme Caïn. Vous vous rappelez Tubal Caïn ? Vaïstor Messa avec Yaakov, donc, et Ésaü a haï Jacob, à la bracha chez Bracho à vivre, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, Vaïomer Essa Belibo, et Ésaü dit dans son cœur, Ikrevou Yeme Evel Avi, s'approcheront les jours du deuil de mon père, Isaac, Vaharega et Yaakov Achi, et je tuerai Jacob, mon frère. Ça veut dire, tant qu'Isaac est vivant, Ésaü ne peut pas tuer Jacob. Retenez la formule, je vais vous l'expliquer maintenant. C'est-à-dire, le problème de la rivalité entre Ésaü et Jacob, ça porte donc sur le fait qui est Israël. C'est à un niveau spirituel, théologique, d'identité absolue. Or, il suffit de faire le schéma de tout ce qui s'est passé dans le passage du peuple juif dans la civilisation chrétienne pour s'apercevoir que le christianisme a toujours triomphé. Le signe, l'assimilation. Ça ne veut pas dire forcément que les juifs devenaient chrétiens, mais les juifs se déjudaïsaient. Le passage en civilisation chrétienne faisait que, spirituellement, idéologiquement, tout se passe comme si Ésaü tendait à être plus fort que Jacob, dans les pays de la chrétienté. C'est clair jusque-là ? Et en particulier, la Shoah s'est abattue sur un judaïsme européen en train de s'assimiler à une cadence effroyable. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Isaac est venu au secours de Jacob au niveau du problème de Jacob par rapport à Ésaü, qui est le problème spirituel ? Eh bien, la seule force qui a pu lutter contre la mentalité chrétienne ou l'enseignement du christianisme en milieu juif, ça a été la force de la Kabbalah qui est venue de Sfarad. Je vais vous montrer ça au tableau, mais je pense que l'idée est claire. Okay ? Et aujourd'hui, toute cette espèce de renouveau de renforcement de l'identité juive dans le monde ashkénaze lui-même, et ça commence avec le chassidisme, vient de la Kabbalah des Sfaradim. C'est clair ce que je dis là. Alors, vous avez appris, je ne sais pas si je vous l'ai indiqué déjà au début de l'année.
Je n'ai pas compris cette démonstration.
Je vais te l'expliquer. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que jamais dans le monde ashkénaze, on s'est risqué à entretenir une controverse au niveau idéologique avec la chrétienté. D'abord parce que c'était extrêmement dangereux, hein, la preuve ce qui s'est passé en Espagne par la suite, et puis parce que, je ne sais pas comment vous dire ça, le problème Jacob-Ésaü, cette problématique-là a été vécue de façon tellement intense qu'on ne voulait pas toucher à ce problème-là. Est-ce que vous avez compris, j'ai beaucoup schématisé cette question parce qu'elle est nouvelle pour vous, mais elle est très importante. Comment Isaac peut être décontracté vis-à-vis du phénomène chrétien ? Son problème, c'est le musulman, c'est pas le chrétien. Encore une fois, dans l'univers du Sfaradi, le christianisme, c'est une bouffonnerie exotique, purement et simplement. Je pense que c'est clair ce que je dis là. Mais pour l'Ashkenaz, c'est un problème sérieux. Il se heurte à un goy qui mime l'identité d'Israël. C'est un problème proche, c'est un problème de vie de tous les jours. En pays d'islam, il n'y a pas à se casser la tête différence entre Pâques et Pessah. Pessah, c'est Pessah, et Pâques, c'est les barbares de Rome. Okay. Je pense que c'est clair. Tandis qu'en pays ashkénaz, ça pose un problème. Qui a raison ? Vous avez compris la question ? Et même lorsque le juge est sûr d'avoir raison, ça ne peut pas ne pas être dans une problématique de crispation. Comment dire ? Comparez le chant ladino et le chant yiddish, ou si vous voulez, à la limite, le chant sfarad et le chant ashkénaz. Eh bien, le chant sfarad est nostalgique, le chant ashkénaz est angoissé. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Bon, et ça plonge très, très, très profondément. De toutes les façons, ces deux identités, tant sfarad qu'ashkénaz, c'est des identités de l'exil. Et ici, nous devenons des juifs d'origine sfarad et d'origine ashkénaz. Et pour faire bien dans le tableau, vous avez des juifs sans sfaradim qui s'appellent ashkénaz. Donc, pour revenir au problème, lorsqu'il a été nécessaire de réagir à l'influence chrétienne en milieu juif en Occident, et elle s'est dévoilée très dangereuse au moment de l'ouverture des ghettos. Alors c'est là que on s'est ressourcé dans l'enseignement de la Kabbalah qui était le propre des Sfaradim. Mais je vais vous dire pourquoi c'était le propre des Sfaradim. Parce que la Kabbalah, c'est l'enseignement des disciples des prophètes. Or, les Ashkenazim descendent de l'exil du premier temple qui n'est pas revenu au deuxième. Alors que les Sfaradim sont les exilés du temps du deuxième temple. Ça veut dire qu'ils ont été directement les élèves des Tanaïm. C'est clair. Et par conséquent, ils avaient une relation directe avec l'enseignement des prophètes, alors qu'à Babel, dans l'exil du premier temple, c'était au second degré. C'est-à-dire qu'un exil d'un pays Ashkenaz, c'est un exil au second degré. C'est-à-dire que c'est l'exil de Babel qui était l'exil de Jérusalem. Tandis que le monde Sfaradi, c'est l'exil au premier degré de Jérusalem, directement. C'est la raison pour laquelle la prononciation de l'hébreu n'était pas la même, etc. Bon, ceci est bien entendu schématique. Rappelez-vous le cours que je vous ai fait à propos des rituels. Okay. Or, je vous donnais un exemple que j'ai cité tout à l'heure. Lorsqu'il a fallu réagir contre l'envahissement de la philosophie religieuse de type chrétien en monde juif à l'émancipation, et cette réaction a été le chassidisme, elle est venue de rabbins ashkénazes qui se sont initiés à la Kabbalah des Sfaradim. Vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est que la chassidoute, okay? Les chassidim, les maîtres des chassidim ont eu des maîtres sfaradim. Ils ont introduit l'enseignement de la Kabbalah dans le monde sfaradim. Pourquoi? Parce que, en particulier, comme je vous l'ai dit vendredi pour ceux qui étaient là-bas à Shoresh, en particulier dans le monde ashkénaze, c'est-à-dire le monde européen, on n'osait plus parler de messianité. Pourquoi? Parce que le vocabulaire officiel de la messianité est un vocabulaire chrétien. Donc tout ça a été occulté, caché. Et quand il a été, et par conséquent, cet enseignement-là s'est perdu, sauf chez des élites, où vous entendrez parler des chassidim allemands, bien avant la chassidim polonais, de telles ou telles écoles, mais c'était hermétique, caché, comme, je ne sais pas comment dire ça, secret. Okay. Tandis que l'étude de la Kabbalah dans le monde sfarade était beaucoup moins secret que cela. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est le musulman. On n'avait pas à se gêner avec lui quand on voulait nous parler du Messie. Ça ne le concerne pas. Vous comprenez le problème. Et alors, lorsque le monde ashkénaze a dû se ressourcer pour lutter contre l'influence de la philosophie religieuse chrétienne, je ne dis pas la théologie, c'est encore une autre histoire, il a fait appel à la Kabbalah des Sfaradim. Alors nous avons un schéma très clair. Pour la survie politique, c'est Jacob qui vient au secours d'Isaac. Pour la survie spirituelle, c'est Isaac qui vient au secours de Jacob. Ça va? J'ai bien compris? Donc, ben, c'est ce qui est en train de se passer de notre temps. C'est-à-dire, d'une part, le cycle d'Isaac en tant que signe d'exil a pris fin. Les Sfaradim ont rejoint soit Israël, soit les Ashkenazim. C'est clair. Alors, on est passé du cycle d'Isaac au cycle de Jacob. Et actuellement, le monde juif tout entier est occupé à résoudre le problème de Jacob vis-à-vis des Ahus. Entre-temps, le problème d'Isaac vis-à-vis d'Ishmaël a été résolu. Il a fallu que du judaïsme Ashkenaz, Jacob, sorte une force qui s'appelle Joseph. Vous l'étudierez quand on arrivera dans le livre de Bereshit, la relation entre Jacob et Joseph, et qui était une force politique qui a restauré les droits d'Isaac sur la terre face à Ishmaël. C'est clair. Tant qu'il n'y avait que des Sfaradim dans le pays, vous savez que le pays n'a jamais été coupé des Juifs, mais c'était les Juifs Sfaradim qui habitaient le pays pendant 2000 ans. Vous savez cela. C'est-à-dire les Juifs du deuxième temple. Tant que c'était que les Juifs Sfaradim, Ishmaël était conquérant. Les Ashkenazim sont revenus, la souveraineté politique est revenue. C'est bien clair. Donc c'est Jacob qui a aidé Isaac dans son problème contre Ishmaël. Corollairement, c'est Isaac qui aide Jacob dans son problème contre Israël. Ça va jusque-là? Bon. Je ne sais pas où vous parlez aujourd'hui, mais puisqu'on en a parlé, on parlera du reste de même. Quelle est la vidéo? Alors, je vais simplement vous montrer ça, qu'il y a un lien très direct entre l'identité sfarade et la Kabbalah. Rappelez-vous qu'historiquement, les choses sont très simples. La Kabbalah, c'est l'enseignement des Tanaïm qui étaient les disciples des prophètes. Il s'est passé par le deuxième temple. Alors que les Ashkenazim procèdent de l'exil du premier temple qui n'est pas revenu dans le deuxième. Ils n'ont donc reçu cet enseignement que de façon indirecte. C'est clair? Bon. Alors, vous rappelez qu'est-ce que c'est que le pshat, le remez, le drach? Vous avez appris ça? Et la sod. Et ça fait le mot pardes. Pardes, c'est un mot persan. Hein, dont on a fait le mot français paradis. Pardes. Ça va? Mais non, si on commence par le saut, alors on a le mot. Ça va. On n'est plus rien, c'est comme ça.
Plusieurs fois ces trois mots-là.
Pardes, ça veut dire le paradis, le jardin de la connaissance. Et Sfarad, ça veut dire l'Espagne. Mais enfin, je vous avais indiqué au début de l'année. que ce n'est pas vraiment le mot « bibli » qui signifie l'Espagne. Je ne sais pas si vous en souvenez. Quel est le mot de l'hébreu qui veut dire l'Espagne? Non, ça c'est le mot phénicien. Hispanien. Non, c'est le mot « Tarchiche » qui signifie Espagne dans l'hébreu de la Bible. Vous vous rappelez pas de ça? Vous n'avez pas appris ça? Tarchiche. En Perse. C'est un mot d'origine perse qui signifie « paradis ». Il est rentré dans l'hébreu, le Pardès, dans le sens du jardin de la connaissance.
Je
m'en vais en Israël. Eh bien, parce que c'est un Israélien qui n'a pas entendu parler du paradis. Mais de toutes les façons, paradis, c'est en français. Ne te trompe pas.
Oui, non, mais je m'en vais, ça veut dire
Gan Eden. Ça veut pas dire Gan Eden, ça veut dire le jardin de la connaissance, Pardès. Mm-hmm. Un Pardès, c'est aussi, c'est aujourd'hui un verger. Okay. Alors, je vais vous donner une autre indication. Alors, retenez bien cela. Les méthodes de l'étude de la Torah sont au nombre de quatre, okay, et les initiales de ces quatre mots forment le mot Pardès. Et on s'est servi du mot Pardès pour dire le jardin de la connaissance. Ça va jusque-là? Bon. Et dans les mythes de l'Antiquité, où est-ce qu'on situait le jardin de la connaissance? Est-ce que vous avez entendu parler du jardin des esprits? Le jardin des esprits? Où ça se situe? C'est-à-dire? En Andalousie, tout simplement. Le jardin des esprits. C'est désespérant.
Vous n'avez pas entendu parler des pommes d'or de la connaissance?
Qu'est-ce que c'est une pomme d'or en hébreu?
C'est une orange.
Une orange. Andalousie. Oui. Voilà. Et les esprits. Je l'ai mis, parce que. Vous avez lu? Ça s'écrit comme ça. Bon, allez, on referme tout ça. Retenez la relation des deux problématiques. Okay. Lorsque Jacob est en danger vis-à-vis d'Ésaü, Isaac intervient. Et lorsqu'Isaac est en danger vis-à-vis d'Ismaël, Jacob intervient. C'est clair? Bon. Alors, il est bien évident que le problème politique s'est reposé par l'intervention du judaïsme ashkénaze dans le mouvement sioniste. Tzahal est sorti des Ashkenazim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de soldats sfarades, c'est un autre problème. Mais vous comprenez. Inversement, la Kabbalah, c'est les sfaradim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Ashkenazim qui étudient la Kabbalah, c'est un autre problème. C'est clair? Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Alors, il est moins 10, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Bon, je crois que je vais reprendre le cours demain alors, parce qu'il faut plus de temps. Okay.
Espagne, comment est-ce que...
Tarchiche.
Tarchiche. Ça veut dire quelque chose?
Hein?
Ça veut dire quelque chose?
Je sais pas. Non, je sais. C'est le mot qui veut dire l'Espagne. Ça, je vous en ai parlé au début de l'année, comme Tsarfat, Sfarad, Ashkenaz, tous ces mots-là dont on se sert pour dire l'Allemagne, la France, l'Espagne, désignaient des localités de l'Asie mineure, vous vous rappelez? Et quand les Juifs en exil ont retrouvé le même paysage, ils ont dit là c'est Ashkenaz. Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Mais le mot biblique pour dire l'Espagne, c'est Tarchiche. Mais justement, c'est ce qu'on devait étudier aujourd'hui, mais je n'ai pas assez de temps. Je préfère arrêter le cours là, et on reprendra tout ce texte avec le texte du Zohar demain à 11h30. Alors, reprenez le temps de relire quand même ce chapitre. Je vous avais donné versets 8 et 9
et
17.
Mais si nous, on n'aime pas les autres livres, comment les autres livres vont nous...
Ça fait trois fois que tu me répètes la même chose. D'abord, il ne s'agit pas d'histoire de religion. vis-à-vis du fait qu'il faut avoir la lucidité minimum de prendre acte que dès qu'Israël apparaît dans l'histoire, il est entouré de rivalités différentes. Alors, faites bien attention à cet argument inversé. Et par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un souffrir, on se dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une raison, donc il doit être coupable. Hein, c'est ce qui est arrivé aux Juifs. Alors, quand eux-mêmes pensent à eux-mêmes, c'est grave. Bon, alors on se verra donc demain pour la suite.